ne plus rien dire. Ma tête tourne, 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 comme une bête enfermée, je suis folle alliée. Maudite société, n'as-tu rien d'autre à nous offrir que les mots et les images de ta télé? N'as-tu jamais entendu dans cette journée, le jour, le jour, le jour, les cris et les plaintes des forces à modèle? À quoi vont crier dans cet univers des la souffrance et le supplice sont vraiment double, 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 double. Quand pour pouvoir cantiner, je dois boulonner. Mais quel est le goût de votre prétendue liberté, celle qui tous les jours vous envoie bosser? Il arrivera le jour de la belle, 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 où je démolirai vos portes et barreaux. Fini le rigole.
Bruit de tôle, une émission qui veut agir pour la suppression des prisons et pour la remise en cause du principe de punition et de contrôle. Nous voulons nous attaquer aux murs plus ou moins visibles des institutions qui diffusent l'enfermement et la soumission dans tous les plis de la société, comme la famille, l'école, l'hôpital, les maisons de retraite, celles de la culture et bien d'autres. Le système judiciaire resserre l'étau sur les pauvres et les insoumis, les classes dangereuses en somme. Il enferme de plus en plus tôt, sous prétexte de délinquants juvéniles, de plus en plus souvent, en allongeant la liste des délits, et pour des peines de plus en plus longues. Et malgré une croyance tenace qui veut que la prison soit toujours réservée aux autres, la menace permanente qu'elle laisse planer sur l'ensemble de la population entretient la peur et la soumission. Longtemps tabou, la prison est devenue un sujet médiatique, à la mode, pour spécialistes de toutes sortes, sociologues, médecins, criminologues, politiques, occultant toujours la parole des personnes enfermées. Bruit de tôle se veut un espace de réflexion sur les enfermements, un lien entre l'extérieur et l'intérieur des murs. Ce que nous voulons, c'est mettre en évidence les rouages d'un ordre social qui prétend gérer nos vies, nous soumettre à l'État et désamorcer, assimiler, digérer toute déviation, colère ou révolte. Nous rêvons d'une société sans maître ni esclave, sans coupable ni victime, sans juge ni condamné.
Voilà, c'est Bruit de tôle en direct ce jeudi 4 juillet sur les antennes de Canal Sud. Au sommaire de cette émission, nous allons diffuser un entretien qui a été fait en 2016 et qui a été diffusé sur Mediapart. Et en fait, c'était 2016, c'était 10 ans après l'appel de Clairvaux. Donc, on va avoir des témoignages de prisonniers qui ont à la fois vécu la prison, s'y sont révoltés et encore s'expriment sur le sujet. Ensuite, on reviendra un petit peu sur comment la société française actuellement et le gouvernement gèrent les opposants. Notamment, on verra ce que font nos services secrets autour de l'affaire Lafarge. On reparlera aussi des négociations qui ont été assez vaines autour des mineurs étrangers qui sont à Belleville dans la maison des métallos. On parlera aussi de cette loi que très peu ont vu passer sur les squats. Et puis on parlera aussi de ce que fait la justice des révoltés de Kanaky. Ensuite, je crois qu'on a pas mal d'annonces, puisque c'est juillet-août, que vous allez peut-être bouger. Donc on vous proposera ici ou ailleurs des lieux de rencontre et de lutte. Et on va. Alors, je vous rappelle que l'émission est en direct le jeudi de 19h à 20h. Si vous avez des informations ou autre chose, vous pouvez nous appeler au 05 61 53 36 95. Et de préférence, bien sûr, pendant les pauses musicales pour qu'on puisse décrocher et vous parler. Et bien, on commence alors avec un morceau qui est tout à fait de circonstance.
Merci! Dig it up, 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 dig it Et se prête pour jouer, les hommes se comportent comme les morts. L'élevage en favori, à des milliers de temps de mort. Nous sommes à l'heure des paradis, au lieu de prison sur des vies. Nous sommes dans un état de jade, et partout c'est le roi du pain. Constitution organisée, plus des passions j'ai vélosé. Le tien montrait les bonnes vies, l'attention monte et tiens prêt. Massacrer dans les abattoirs, brûler dans les laboratoires. Marcher dans les cités en bois, prisonnier derrière ton pas droit. Les spécules, en les fonds du gouvernement, en Europe les robes promis, en les montants des Allemands. Pensez, pensez. Un an de suite, plein de morceaux, dynamique et parti pour haut. Les stages qu'on mesure à la violence, le temps devient le plus grand. Pensez, pensez. D'un côté système monétaire, de l'autre l'ombre militaire. Pour finir en règle en bon, après le chat de soi et non. Pensez.
On précisera que c'était une jeunesse des années 90. Elle a vieilli, elle emmerde toujours le Front National. Et on espère que la jeunesse d'aujourd'hui continuera sur ce RN à s'exprimer contre tous ces abus d'extrême droite. Alors, on continue l'émission avec ce que je vous ai dit, un entretien qui date de 2016 et qui parle un peu des conditions dans la prison, notamment suite à l'appel de Clairvaux. Alors, le son.
Abdelhamid Dakar, bonsoir. Merci d'être parmi nous. Les conditions de détention, c'est un sujet que vous connaissez bien. Quand je vous ai dit que vous alliez être seul en plateau ici, vous m'avez dit « j'ai l'habitude ». J'ai passé 12 ans à l'isolement. 12 années à l'isolement sur 27 années de détention.
Quasiment la moitié de la peine. Hein.
Vous avez fréquenté 45 établissements,
50
même établissements pénitentiaires, excusez-moi. Vous avez fait 4 tentatives d'évasion, je crois, et multiplié les grèves de la faim pour justement protester contre ces conditions de détention. Et surtout, on voulait vous inviter parce qu'il y a 10 ans, en 2006, vous avez été l'initiateur et le rédacteur d'un texte très fort qui s'est appelé les perpétuités, l'appel des perpétuités de Clairvaux, dans lequel vous appeliez au rétablissement de la peine de mort et qui commençait ainsi. À ceux de l'extérieur, osant affirmer que la peine de mort est abolie, silence. On achève bien les chevaux. Assez d'hypocrisie. Dès lors qu'on nous voue une réalité à une perpétuité réelle, sans aucune perspective effective de libération à l'issue de notre peine de sûreté, nous préférons encore en finir une bonne fois pour toutes que de nous voir crever à petit feu, sans espoir d'aucun lendemain, après bien plus de 20 années de misère absolue. À l'inverse des autres pays européens, derrière les murs gris de ces prisons indignes, la République des Lumières et des Libertés de 2006 nous torture et nous anéantit tranquillement en toute apparente légalité au nom du peuple français, en nous assénant, en fonction du climat social ou à la faveur d'un fait divers ou encore d'échéances électorales, mesure répressive sur mesure répressive, sur le fondement du dogme en vogue du tout répressif, érigé en principe premier, supplantant tous les autres. Qu'on se rassure de nos jours, ici, même les mauvaises herbes ne repoussent plus, il n'y a que le noir et le désespoir. De surenchère en surenchère, la machine à broyer l'homme a pris impitoyablement le pas. C'était en 2006, et 6 ans plus tard, vous êtes sorti de prison, vous avez regoûté à la liberté. Est-ce que vous regrettez, aujourd'hui en 2016, d'avoir signé ce texte ?
Absolument pas. Absolument pas. Lorsque vous venez de le relire, je le revivais parce que je l'ai effectivement rédigé, j'ai mis du temps, parce qu'il fallait que je trouve les bons termes de manière, les bons termes mais qui reflétaient une véritable réalité de notre quotidien, hein, donc sans acrimonie particulière. Donc je voulais faire un peu... transparaître à l'extérieur, à l'opinion, en disant, regardez ce qui se passe ici. Vous êtes en train de créer des comités de soutien à l'extérieur. Vous vous mobilisez parce que dans tel ou tel état de la liberté des États-Unis, on exécute ou on met dans les couloirs de la mort des gens. Je dis, mais ici, on nous tue. Je dis, ici, et il l'a reconnu, Badinter. Parce que, fut un temps, on disait, il a aboli la peine de mort. Un jour, je lui ai écrit, il était à l'époque au Conseil constitutionnel, je dis, sauf erreur de ma part, je dis, vous n'avez pas aboli la peine de mort, vous avez aboli l'instrument, la guillotine. Du moment qu'elle existait, si vous faites une comparaison en pourcentage de chiffres sur la population pénale qu'il y avait à l'époque et combien décédait, comparé à aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a plus de morts en pourcentage aujourd'hui depuis que la peine de mort n'existe plus. Alors, conclusion, on en tire un constat, et le constat, il est le suivant, c'est que moi en particulier, qui a observé ça pendant 3 décennies, 3 décades, j'ai été témoin de l'allongement des peines et autre chose, qui n'est pas pareil, de l'allongement de l'exécution des peines. C'est 2 choses différentes.
Qu'est-ce qui n'était, pour reprendre ce que vous venez de dire, qu'est-ce qui n'était pas supportable pendant toutes ces années ?
Alors, déjà, tout à l'heure j'écoutais, mais tout se rejoint. Il y a une hypocrisie, une irresponsabilité totale de ceux à qui on confie les rênes du pays. Ils sont là de surenchère en surenchère. Je vais construire 10 000, je vais construire 16 000. La prison, c'est comme la nature, elle a horreur du vide. Vous mettez 1 million de places de prison, eh ben, il y aura 1 million de personnes dedans, parce que vous trouverez toujours quelqu'un à mettre dedans. Alors, soit il y a des gens sensés, intelligents, tous ceux qui ont compétence dans le domaine pour établir, on va dire, un certain chiffre, on va dire 80, 100 000 au prorata de la taille de la France et un peu de son terreau de délinquance, etc. On va construire 100 000 places. OK. Mais à ce moment-là, comme l'a dit le directeur, ça fait, et comme une ancienne, comme on dit, ça fait 30 ans que je l'entends, numerus clausus. Et pourtant, les directeurs de prison, ils sont pour, je le sais, j'ai discuté avec bon nombre d'entre eux, enfin, du moins certains, mais ils ne maîtrisent pas tout. Des fois, quand des flics arrêtent des gens, ils mettent la pression sur le parquet, le parquet met la pression sur le juge d'instruction ou sur le JAP ou autre magistrat qui a compétence sur telle ou telle affaire précise ou à prendre telle décision, et en bout de chaîne arrive à la prison, il dit, ben non, on vous envoie du monde même s'il n'y a plus de place.
C'est parce qu'il y a trop de monde. Alors, c'est les 9 mètres carrés face au vide.
Alors, l'hypocrisie, vous avez quelqu'un qui aspire à être président de la République demain, qui est pour moi un escroc phénoménal, un vrai Tartuffe. Il arrive au pouvoir, il dit tout de suite à chaud, les caisses de l'État sont vides. Je suis à la tête d'un pays qui est en faillite, les caisses sont vides. Cinq ans plus tard, quand ils quittent le pouvoir, tous les deux, ils laissent une ardoise de 700 milliards en plus. Ils sont co-responsables, les deux. Là, je les entends à la télévision, ils surenchèrent sur Juppé, ils disent « je vais construire 16 000 places ». Mais où tu vas le chercher, cet argent ? Hollande, il ne laissera rien, il n'y aura pas grand-chose. Et le déficit actuel, ce qu'on emprunte, s'ajoute à ce qui s'est passé par la suite, la France, elle envoie de cessation de paiement à ce tarif-là. Alors, on en vient en prison, parce que, et ça fait même partie du budget du ministère de la Justice, Juppé dit qu'il veut l'augmenter, le mettre à tel niveau. Mais ça fait 30 ans qu'il fallait le faire, ça. On est le 20, je crois, sauf erreur de ma part, 27e budget sur 34 pays sur la zone européenne.
Au-delà de la question financière, monsieur Akar, puisqu'aujourd'hui, cette soirée est placée sous le signe du sens de la peine. On a parlé des courtes peines, alors, la difficulté de donner du sens. Vous avez fait une longue peine, une très longue peine.
Vous ai entendu. Alors, est-ce qu'on peut,
après 27 années de détention, réinsérer ?
Là où je suis révolté, c'est que c'est vrai qu'il y a des infractions au quotidien qui sont commises et qui exaspèrent les gens, etc., la société. Voilà, ça c'est vrai. La réponse, condamnation, ok, peine, tu as commis une infraction, tu dois être réprimé, okay. Mais pas pour seule réponse, la prison.
Mais sur les
pas pour seule réponse, parce que vous ne rendez pas service à ce détenu, déjà... Pourquoi il a commis ? Pourquoi il fait des répétitions de conneries, etc., etc. Pourquoi on ne cherche pas d'abord les causes avant de voir les effets ? Peut-être qu'il est déjà en souffrance, en fragilité. Vous allez donc le mettre dans un environnement criminogène où il va être endurci et non pas craindre la prison. J'ai bien dit endurci. Et en fait, vous ne rendrez pas service à cette personne, ni à son environnement, ni pour le peu de choses, de liens qui lui restaient, ni à la société, in fine, puisque au final, elle le reverra devant, et peut-être pour des faits autrement plus graves. Moi, je l'ai observé, ça.
Et vous, vous n'en avez rien retiré ?
Alors, moi, lors de la conférence de consensus, j'avais été convié, on m'a demandé de faire, et j'ai été désigné comme rapporteur de détenus, donc on a fait des réunions et on a fait émerger certaines propositions. Donc, on m'a demandé à moi de faire ce travail-là. Donc, j'ai un peu travaillé avec cette conférence de consensus. Ensuite, on a mis mes propositions sur le site du ministère de la Justice et sur la base de celle-ci, notamment sur les petites peines, je m'étais un peu réjoui de dire, on va substituer l'emprisonnement aux petites peines et ces peines, on va les convertir soit en travail d'intérêt général, on trouvera toujours un système quitte à innover. Mais c'est contre-productif quand quelqu'un... Alors moi j'ai dit de 1 à 3 ans. De 1 à 3 ans, c'est contre-productif. Le gars, vous lui mettez un bracelet, de telle heure à telle heure, il est enfermé chez lui, de telle heure à telle heure, tu vas à la mairie, tu vas balayer, on trouvera toujours quelque chose à lui faire faire. Et enfin, et c'est vrai, tout à l'heure, la dame qui était ici, quand elle parlait du budget ministère de la Justice, il est très restreint. Dans ce budget ministère de la Justice, il y a ce qui est imparti à l'administration pénitentiaire. Donc, il faut voir les batailles d'influence syndicale, pénitentiaire, hein, je parle. Hein. Moi, j'ai assisté à des tas de choses.
On a parlé des courtes peines. Pour les longues peines, la problématique se pose différemment. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas le temps pour une peine courte de mettre en œuvre une problématique de réinsertion. Sur 27 ans, on peut imaginer qu'à l'inverse, on a tout le temps de préparer la sortie. Alors quand vous êtes sorti, vous, 27 ans après, quand vous étiez rentré, il n'y avait ni Internet, ni téléphone portable, vous vous êtes retrouvé comme ça, j'imagine, dans la rue. Comment ça s'est passé ? Comment on peut revivre, redonner un sens à vie ?
J'ai jamais eu dans ma cellule de téléphone. Jamais. Je pouvais en avoir tous les jours. Jamais. Parce que fut un temps, quand j'avais arrêté de m'exprimer par les actes violents, puisqu'un jour je tombe sur un directeur de prison qui m'avait connu avant qu'il soit directeur de la centrale et à l'extérieur, donc Donc, il a réussi à me persuader, à me convaincre, et l'idée a fait son chemin dans ma tête. Et c'était à un moment donné où je commence à faire un travail d'introspection sur moi pour comprendre le sens de ma vie, où j'ai fauté, qu'est-ce que j'ai fait.
Au bout de combien d'années ?
Franchement, c'était exact. Moi, je me rappellerai tout le temps de l'année. C'était 99. Donc, au bout de 14-15 ans, un directeur de prison a dit un jour, à juste titre. Et a raison, peut-être pas, c'est pas transposable à tout individu, qu'au-delà de 15 ans, la peine n'a plus de sens. Moi, on m'a gardé 28 mois gratuitement.
Et comment ça s'est passé, pour reprendre la question de Michael, à la sortie ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Quels sont vos souvenirs de ces moments-là ?
Alors, moi, dans mon... Je l'ai mérité quelque part. Hein. Moi, les 15 premières années, j'avais bonne conscience. Je n'étais que le produit de la société. J'ai rien à me reprocher. Voilà. Donc, on est en train de me faire ça. Ben, je riposte à ma manière, avec les moyens dont je dispose. Voilà. Puis un beau jour, donc, j'ai commencé à véritablement raisonner et à percevoir certaines choses. Il y a eu un déclic, c'est lors de ma dernière tentative d'évasion avec arme. J'apprends que ma mère, elle avait appris ça, qu'elle a eu un coma diabétique, etc. Puis je me dis, le meilleur moyen de lui rendre service, c'est de continuer comme je fais et comme ça, je la tue. Et là, ça m'a mis un électrochoc total. J'étais au mitard, donc suite à cette tentative avortée, voilà. Et là, le travail a commencé, donc vers 14-15 ans. Et là, j'ai compris que c'est pas la société qui m'a mis une arme sur la tempe, qui m'a dit « va braquer des banques ». Voilà, donc moi, j'ai causé du tort à autrui, je le reconnais, je le regrette. Je l'ai dit encore 4 ans plus tard, parce que je le ressens profondément. J'ai fait du mal au mien et j'ai détruit ma vie.
Est-ce que vous savez ce que sont devenus les 9 autres signataires de cet appel ?
Alors, je suis en contact avec l'un d'eux, qui est ingénieur informatique, qui fait de la sécurité informatique. Voilà. Et les autres, non.
Est-ce que certains sont encore en détention aujourd'hui ?
Oui, certains décédés, certains en détention. Je vais vous dire, moi, j'avais pas d'amis en prison. Moi, j'avais mon comportement à moi, j'avais ma guérilla que je menais de manière judiciaire. J'utilisais quand j'avais décidé de changer du tout au tout. Et je me suis dit, dorénavant, à partir d'aujourd'hui, donc, je vais utiliser les voies légales et non plus extrajudiciaires pour faire valoir mes droits. Et puis, où ils auront raison de moi, où je sortirai, mais je sortirai par la porte. On a beau venir me faire des propositions, de tentatives, de nouvelles, évasions, etc. J'ai décliné des histoires de bandes, de trafic. J'ai toujours été en dehors de ces choses-là. Voilà. Donc, moi, quelque part, lorsque je suis sorti, et faut pas croire que je suis réparé, j'en bave encore au quotidien.
Comment ?
Bon, il est vrai, j'avais reconnu par rapport à la sortie, à une sortie chaise, il ne faut pas laisser sortir quelqu'un qui a fait des peines extravagantes ou importantes de manière comme ça.
Vous avez été accompagné.
Moi, j'ai eu un bracelet. Ouais. Ce bracelet, c'est vrai qu'on me l'a gardé un an, j'ai estimé qu'au bout de 6 mois que c'était trop parce que je n'avais pas de vie sociale, affective et autre, etc. Mais les 6 premiers mois, ça va bien parce que j'en prenais au quotidien plein la gueule, je ne comprenais rien. Mon cerveau, moi qui ai été dans un bocal de formol pendant 27 ans, qui est habitué à une information, à un événement au quotidien, là, je me retrouve avec un milliard d'informations à gérer. Donc, j'étais dépassé, c'est le terme. Donc, le soir, en rentrant, je travaillais dans une boîte où j'étais chargé d'études. Lorsque je rentrais, vers 19, on m'a aménagé un peu les horaires par la suite, vers 18-19 heures, ça me permettait de faire mon bilan de la journée, puis de chercher à comprendre, etc. C'est vrai que les 6 premiers mois, il a été d'un bienfait évident, en tous les cas pour moi. Au-delà, j'ai été faire les remarques au JAP en disant, mais il me dit, regarde, moi, la loi prévoit de 1 à 3 ans, ne me permet pas de moduler, voilà, donc fais une proposition pour permettre au cas par cas, en fonction des individus, à un JAP de pouvoir moduler, que c'est peut-être pas nécessaire d'aller au-delà de 6 mois, voilà. Donc, en tout état de cause, je l'ai gardé un an, puis, ironie du sort, le dernier jour, lorsque je me rends à la maison d'arrêt, on me tend un ciseau, je dis, pourquoi, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Bah, tu vas prendre le pied, t'en as rêvé. Je dis, c'est pas moi, c'est mon pied, parce que je faisais des cauchemars. J'avais comme un sentiment de rejet, j'ai failli l'enlever à plusieurs reprises, mais involontairement, quoi. Et sentir comme une chaîne encore à ma jambe. Voilà, donc oui, non, on ne peut pas oublier 28 ans, surtout dans les conditions où je les ai passées. Voilà, et donc, oui, sur le nombre de places, il faut le définir, il faut définir les moyens, il faut définir des responsabilités, il faut faire, puisqu'on nous prend des choses qui nous arrangent dans tel ou tel pays, sur des matières économiques ou alors répressives, bah, qu'on fasse aussi comme dans certains pays, notamment d'Europe, qu'on dise à des magistrats et même à des surveillants de prison de venir passer 2-3 jours en prison, vraiment. Comme ça, on sait ce que c'est l'enfermement absolu.
La prison en 30 ans, elle a changé? C'était la même au début et à la fin? Elle s'est dégradée ou elle s'est améliorée?
Oui.
C'était la même? Non, elle a changé.
Non, elle s'est dégradée, oui. Il y a 30 ans, on pouvait encore être motivé pour faire des formations, des cours, apprendre, s'instruire, etc. Et la CAM est arrivée par là, donc ça a altéré les mentalités, tout a changé. Il y a un changement d'époque, changement de génération. C'est vrai que...
C'est les détenus, vous voulez dire, qui ont changé ou bien c'est l'administration?
Vous savez, une prison, c'est les détenus qui font la prison. C'est pas les surveillants, c'est les détenus qui font la prison. Moi, je sais, j'en parle en connaissance de cause.
De quoi ça?
Moi, avec 5-6 mecs, si on veut, on prend la prison, on prenait la prison.
Ça s'est durci?
Non, il y a un laisser-aller. Il y a un laisser-aller, il y a une démission aussi bien des services de l'État que... C'est la pédagogie qui manque énormément et l'intérêt qu'on peut porter à l'individu. Moi, lorsque j'avais fait ces propositions à la conférence de consensus, je disais que la première des violences, quand on enferme quelqu'un, c'est justement l'enfermement. La deuxième, c'est quand on l'amène au greffe, qu'on lui donne un numéro d'écrou, il n'a plus d'identité. Mais ça travaille dans la tête. Parce qu'on tourne entre nous, on discute. Et quand on ne vous appelle même pas par votre nom. Numéro d'écrou. Vous êtes marqué. Donc, effectivement, pendant longtemps, la prison s'est évertuée à faire en sorte que rien ne transparaisse à l'extérieur. Tout était en autarcie, en huis clos. On ne voulait pas que des intervenants extérieurs rentrent. Puis avec des luttes, avec aussi bien des luttes internes que des gens de la société civile à l'extérieur, comme par exemple l'OIP, s'il n'existait pas, je vous passe la formule, il aurait fallu l'inventer, des gens honorables qui font un travail harassant, qui constitue aussi un sacré outil d'alerte pour les pouvoirs publics, dans l'intérêt général, voilà, et ils font véritablement un travail monstrueux, et je vous dis que sans eux, la prison serait dans des dérives encore beaucoup plus importantes, avec des drames beaucoup plus importants. Voilà.
Bon, et ben c'est sur cet hommage que l'on termine ce deuxième plateau. Merci beaucoup. Hein. Allez-y, je vous en prie.
Juste terminer sur la question des intervenants. La prison doit s'ouvrir, ça n'a rien à cacher. Il est quand même inconcevable lorsque on s'évertue à prôner le principe de territorialité de la loi pénale. En disant la loi pénale s'applique sur toute l'étendue du territoire français. Et le principe d'égalité de traitement. Comment dans une prison, ils ont un règlement intérieur, dans une autre prison, ils ont un autre règlement intérieur. Quand vous les comparez, il n'y a quasiment rien de similaire. que ce soit sur les parloirs, sur les mouvements, sur les promenades, sur les activités, sur la vie intérieure tout court. Mais normalement, il doit avoir un seul règlement intérieur. Et il n'a jamais été soumis au contrôle du juge administratif. Il faut que les détenus attaquent le règlement intérieur, comme j'ai pu le faire, pour dire là, il y a un excès de pouvoir manifeste, telle mesure. Fut un temps, lorsqu'on réclamait les fiches pénales, là aussi, les juges devraient se pencher là-dessus. Ça, c'est monstrueux, de garder des gens arbitrairement, puisque les magistrats du parquet sont si pris et peu nombreux qui délèguent une partie de leur travail, à savoir la consultation et le suivi des fiches pénales, au personnel pénitentiaire qui n'est ni formé, qui n'est pas habilité et qui n'a pas le pouvoir, en vertu de la loi, de pouvoir donc, on nous a dit ce sont des documents administratifs. J'ai amené l'affaire devant le tribunal administratif qui a dit non, il y a des données judiciaires. Et il se réfugiait là-dessus pour ne pas communiquer les fiches pénales aux détenus qui le demandaient. On a obtenu, grâce à des avocats courageux, consciencieux, qui arrivent quand même à aller dans les prisons et à ruer dans les brancards et à sonner l'alarme quand le besoin s'en fait sentir.
Ok, bon, ben merci beaucoup. Merci beaucoup, Abdelhamid Akkar, donc pour ce C'est témoignage moi. Et pour votre venue. Avant de passer à la dernière partie de cette soirée, je vous rappelle comment nous réussissons, vous pouvez rester assis, comment nous réussissons donc collectivement à faire ce journal, à écrire et à monter tous les jours le journal et le mercredi les émissions hebdomadaires en direct. C'est donc bien sûr grâce à vos abonnements. Donc, et sans sortir mes moustaches, je vous rappelle que tout Mediapart, ses articles, ses archives, ses vidéos sont accessibles à partir d'un euro par mois. Il suffit pour cela de vous abonner. Donc tout ceci est très bien expliqué sur notre site internet. Voilà, je vous laisse encore une fois en vidéo en compagnie de M. Perben, Mme Guigou, M. Nallet, M. Chalandon, tous d'anciens gardes des Sceaux, et qui dressent un constat assez accablant sur l'état de la...
Voilà que ça commence. Qu'à la mémoire on a choisi l'oubli. Partout les discours sont les mêmes. Et étrangers fut la cause de nos problèmes. Moi je croyais que c'était fini. Mais non, c'était qu'un répit. Moi je croyais que c'était fini. Mais non, c'était qu'un répit. Voilà, ça commence. Partout, sur la douce France. Voilà, ça commence. Partout, oui, ça avance. Voilà. La leçon n'a pas suffi. Faut dire qu'à la mémoire, on a choisi l'oubli. Dehors, les étrangers. C'est le remède des hommes civilisés. Prends en garde, ils prospèrent. Pendant que l'on regarde ailleurs. Prends en garde, ils prospèrent. Pendant que l'on regarde ailleurs. Voilà, ça recommence. Partout, sur la douce France. Voilà, ça recommence. Partout, oui, ça avance. Voilà, ça recommence. Partout, sur la douce France. Voilà, ça recommence.
The lesson was not learned, the memories Everywhere I hear voices say, foreigners, you are the cause of our problems. Me, I thought it was all over, but in fact, it was only a pause. Voila, voila, it's starting again. Everywhere, everywhere, even in La Douce, France. Voila, voila, it's starting again. They are coming.
Voila, voila, ça commence.
Vous écoutez toujours Bruitol sur Canal Sud 92.2 et nous écoutions le regretté Rachid Taha. Et on va continuer en parlant de l'affaire Lafarge, puisque le 2 juillet, 4 personnes mises en examen dans l'affaire dite Lafarge étaient convoquées devant les juges d'instruction. Et à cette occasion, un collectif de 192 personnalités, composé d'avocats, de magistrats, d'intellectuels, d'activistes, dénonce le rôle croissant de la sous-direction antiterroriste dans la répression des mouvements sociaux. Et du coup, on va vous lire du coup la tribune. Mais pour qui travaille la SDAT ? Ce mardi 2 juillet, les 4 personnes mises en examen dans l'affaire dite Lafarge, accusés d'avoir participé au désarmement de l'usine de Bouc Belair en décembre 2022, sont convoqués devant les juges d'instruction. Elles devront répondre de faits de dégradation et d'association de malfaiteurs, prétendument aggravés par le caractère de bande organisée. Peine encourue, 20 ans de prison. Les victimes de cette affaire, sacs de ciment, armoires électriques et autres véhicules de chantier, n'étant pas douées de parole, le parquet n'a pas osé qualifier ces faits de terroristes. Pourtant, c'est la sous-direction antiterroriste, SDAT, en collaboration avec la section de recherche de Marseille, qui est chargée de l'enquête, toujours en cours à ce jour. C'est encore la SDAT qui a été saisie de l'enquête pour d'autres dégradations, peinture et mousse expansive sur le site Lafarge de Val-de-Reuil en décembre 2023. Parmi les 17 personnes initialement interpellées, 9 devront comparaître au tribunal d'Évreux à l'hiver prochain. À chaque fois, la SDAT a coordonné des opérations d'interpellation spectaculaires où l'on a pu voir des commandos cagoulés et armés défoncer les portes de dizaines de militants et militantes quand ce ne sont pas celles de leurs voisins-voisines, pour les emmener dans les sous-sols de leurs locaux à Levallois-Perret. L'enquête sur l'affaire Lafarge a permis et permet sans doute encore de traquer les déplacements, les relations et les conversations de centaines de personnes et d'éplucher les comptes de nombreuses associations. Particulièrement alarmant, le dossier montre l'usage d'un mystérieux logiciel espion qui, à l'instar de Pegasus, est employé pour aspirer le contenu des téléphones et notamment celui des messageries cryptées ou encore le fichier des titres d'identité détourné de manière abusive pour récolter des empreintes digitales. Plus largement, cette enquête fait planer la menace d'une perquisition sur la tête de quiconque aurait les mauvais amis, se serait rendu sur les lieux d'une manifestation ou aurait le malheur d'être géocalisé au mauvais endroit et au mauvais moment, comme de nombreux témoignages l'ont montré. Pourquoi une telle opération ? La SDAT travaillerait-elle pour une des entreprises les plus toxiques de la planète ? Actuellement mise en examen par le parquet national antiterroriste pour complicité de crimes contre l'humanité et financement du terrorisme. La défense de Lafarge par les services secrets, déjà largement documentée dans le cadre du financement de Daesh, se reconduit-elle en France ? La SDAT, service de police spécialisé, étroitement lié à la direction du renseignement intérieur, a régulièrement mis ses capacités d'exception au service d'intérêts politiques variés de l'État français. Les arrestations récentes de militants indépendantistes du CCAT en Kanaky par la même SDAT et leur transfert à 17 000 km de chez eux montrent encore une fois le rôle de la police antiterroriste dans la répression des mouvements sociaux. Dans l'affaire Lafarge, elle est saisie pour des enquêtes de simple dégradation sans mobile terroriste, 15 ans après la tentative infructueuse de faire tomber le fantasmatique groupe anarcho-autonome de Tarnac et quelques années après l'effarante affaire du 8 décembre qui avait provoqué l'incarcération de plusieurs personnes pendant des mois. de son propre aveu, il lui faut bien trouver des figures de l'ennemi intérieur pour justifier de son budget face à la baisse de la menace djihadiste et chercher de nouveaux débouchés du côté de l'écologie. Qu'importe si les enquêteurs de la SDAT reconnaissent que ceux qu'ils catégorisent comme appartenant à l'ultra-gauche ne s'en prennent pas aux personnes mais aux biens. Brandir la criminalité organisée pour des faits de dégradation a le mérite de créer de toutes pièces une nouvelle menace repoussoir, celle de l'éco-terroriste. Dans la lecture policière, une manifestation devient un commando. Telle personne connue des services de renseignement pour son activité dans les mouvements sociaux devient cadre ou encore coordinateur ou logisticienne. On catégorise les membres présumés de cette bande en les faisant appartenir à un cercle dirigeant et stratégique ou à un cercle opérationnel. L'enquête, menée à charge contre les soulèvements de la Terre, a notamment permis, via la traque des supposés cadres, de justifier une surveillance accrue à la veille de la manifestation de Sainte-Soline en mars 2023. On est bien loin des événements de Bouc-Bel-Air. La SDAT assure bien sûr n'enquêter que sur des faits, se défendant d'enquêter sur un mouvement dans le but de le faire tomber. L'affirmation prêterait presque à rire si les conséquences n'étaient pas aussi lourdes. Il suffit de rappeler que les arrestations dans l'affaire Lafarge ont eu lieu la veille de la dissolution des soulèvements de la Terre en Conseil des ministres, empêchant ainsi plusieurs de ses porte-paroles de s'exprimer à un moment crucial. La construction policière révélée par des rapports de synthèse fantasmagoriques est dangereuse parce qu'elle fabrique des figures qui ont pour fonction première d'orienter les décisions des magistrats instructeurs. Elle altère profondément le principe de présomption d'innocence et la garantie des droits pour les personnes poursuivies. Sur le fond, la saisie des services de la SDAT, dont l'excellence se mesure à sa capacité à s'exonérer du régime de droit commun de l'enquête et aux moyens démesurés mis à sa disposition, pour des faits qui sont strictement en dehors de sa vocation, relève avant tout de la répression politique. À la veille des Jeux Olympiques de Paris, les MICAS, mesures individuelles de contrôle administratif et de sécurité, commencent à tomber. Elles constituent des équivalents des assignations à résidence en l'absence de l'état d'urgence qui les conditionne normalement. Relevant de la lutte antiterroriste, elles constituent une procédure amplement détournée pour priver de liberté de manifester et de se déplacer des militants qui pourraient déranger. Si les gouvernements précédents ont donné toujours plus de latitude aux services antiterroristes, les prochains ne se gêneront pas pour en profiter pleinement, tant l'outil à leur disposition est commode pour traquer les opposants et paralyser les mouvements sociaux. Dans cette période agitée où le RN est aux portes du pouvoir, les conséquences politiques de l'augmentation des moyens et du champ d'action de la police antiterroriste sont profondément dangereuses. Elles s'inscrivent dans une période d'extension de la surveillance de masse, d'aggravation des violences policières et de la répression judiciaire des mouvements de contestation. Puisque les intérêts économiques et idéologiques des puissances industrielles qui ravagent le monde convergent fortement avec ceux du RN, ce parti ouvertement climato-sceptique, on peut légitimement se demander à quoi servira un outil tel que la SDAT s'il tombait aux mains de l'extrême droite. Pour toutes ces raisons, nous, participants et participantes au soutien des luttes écologiques, sociales et décoloniales, dénonçons le rôle croissant de la SDAT dans la répression des mouvements sociaux et écologistes. Nous, magistrats, magistrates ou avocats, avocates, demandons qu'elle soit dessaisie des enquêtes sur des faits qui ne relèvent pas de ses compétences, à commencer par l'affaire Lafarge de Bouc-Bel-Air.
Et donc, on continue. Bruit de tôle, c'est l'information, on en a déjà parlé, sur ce collectif des jeunes du parc de Belleville qui occupe la maison des métallos depuis le 6 avril 2024. Cela pour revendiquer le droit à un hébergement digne pour des mineurs isolés et plus largement l'accès à tous leurs droits. Alors, d'abord, il y avait eu une proposition qui avait été partagée avec la préfecture de disperser tous ces jeunes dans des centres de l'Île-de-France gérés par l'État. Mais ces centres sont non adaptés et il faut savoir qu'une telle opération avait déjà eu lieu en octobre 2023 et que toutes les personnes qui avaient accepté ces déplacements se sont remises à la rue car ces dispositifs sont inadaptés à la situation administrative des mineurs isolés et donc l'ensemble de l'Assemblée Générale a refusé ce projet. foyer. La deuxième proposition était une mise à l'abri dans un gymnase. Mais voilà, la mairie vient de faire savoir que la proposition annoncée pour le vendredi 28 n'était plus d'actualité. Et ils ont ajouté qu'il y aura peut-être une autre proposition la semaine prochaine, sans préciser, et par contre en disant « vous en demandez trop ». Alors, extrait de leur communiqué, après 3 mois d'occupation à la maison des métallos, nous avons prouvé l'intérêt et la viabilité d'un lieu de vie qui nous permet d'échanger collectivement pour sortir de l'isolement, de gagner en visibilité, de créer des solidarités avec les soutiens, les voisins, les syndicats, autres collectifs de lutte et améliorer l'accès aux droits grâce à des permanences juridiques et autres pour les papiers et l'école. Alors que l'extrême droite pourrait prendre le pouvoir et que les JO augmentent de la violence à nos parcours déjà éprouvants, la mairie de Paris, censée être une mairie de gauche, trouve que nous en demandons trop lorsque nous revendiquons notre droit à des conditions de vie dignes. Elle ne trouve rien de mieux que de nous proposer une prise en charge par l'État, alors qu'il pourrait se retrouver aux mains de l'extrême droite dans quelques jours. C'est ça le projet alternatif de barrage au Rassemblement national. Quelle honte! Au-delà de l'inaction de la préfecture et de la mairie, ce que prouvent ces échanges, c'est que nous sommes maintenant reconnus comme des interlocuteurs politiques. Alors que la mairie passait uniquement par nos soutiens pour nous transmettre des informations, c'est aux délégués du collectif maintenant qu'elle s'adresse directement. C'est quand même une victoire puisque nous sommes les acteurs de notre lutte. Nous appelons donc à tout le monde, donc les gens qui se trouvent sur Paris, pendant vos pauses, etc., de venir et surtout dès lundi et mardi, dès 9h, car nous avons besoin de monde devant la maison des métallos. Et on suivra bien sûr, selon l'actualité, ce qui leur arrive. Alors, concernant justement, je voulais faire un lien, puisqu'il existe sur la loi Kasbarian. Alors cette loi Kasbarian, votée en juillet 2023, c'est une loi qui concerne les squats. Alors, pour la vendre, cette loi, on nous dit que ça améliore les procédures d'expulsion. Que les délais applicables seront raccourcis après un jugement d'expulsion, que ça renforce l'efficacité des clauses de plein droit, les critères d'indemnisation en cas de refus de l'État de concourir à l'exécution d'un jugement d'expulsion seront fixés à l'avenir par décret, que ça pénalise l'occupation après la fin du bail. Alors on nous parle aussi d'amélioration technique avec intervention des services sociaux, avec aussi améliorer la lutte contre les squats. On mélange maintenant tous les squats à usage d'habitation commerciale, agricole ou professionnelle. Tous sont incriminés. Qu'on clarifie et durcit l'infraction de violation de domicile. Que la procédure est étendue devant le préfet pour cesser une occupation illicite. Que aussi alourdir les sanctions contre les arnaqueurs au faux bail, etc., etc. Alors, pour mieux savoir ce qui se passe, il y a un site qui s'appelle loi-kasbarian, kasbarian.squat.net, donc loi-kasbarian. Alors, la loi et kasbarian, c'est un tiret, mais après, c'est .squat.net. Où vous pourrez tout savoir un petit peu sur cette loi qui durcit les occupations de logements vides. Alors on nous dit aussi que vous pouvez aller voir à kasbarianberge@distrusion.org. Distrusion, c'est Distruzion.
On enchaîne avec la musique.
Comment ça va, les gens de la moyenne? Vous savez, sans vous, on ne peut rien du tout. Comment ça va, les gens de la moyenne? Savez-vous que sans vous, on ne peut rien du tout? Les études ne sont guère nécessaires pour les hommes que l'on dit ordinaires. 4% de fils d'ouvriers à l'université, mais pour voter, même par une croix, à signer, on vous incitera. Et si jamais trop nombreux vous refusez d'y aller. Un jour, si vous n'y prenez garde, on vous y conduira par aiguillon électrique. À bétail, pour aller plus vite, comme en Amérique. Mais c'était à Selma, à Alabama. C'est pas notre chair, c'est pas notre sang, on s'en fout. Comment ça va, les gens de la moyenne? Vous savez, s'en fout, on ne peut rien du tout. Comment ça va, les gens de la moyenne? Savez-vous que s'en fout, on ne peut rien du tout? Les étudiants ont manifesté, par la police, on subit des sévices. Mais c'était à Lisbonne, au Portugal. Mais cette fois c'était leur chair, c'était leur sang. Les bourgeois de la ville ont renié publiquement 40 années de gouvernement. Comment ça va, les gens de la moyenne? Vous savez, s'en fout, on ne peut rien du tout. Comment ça va, les gens de la moyenne? Savez-vous que sans nous, personne ne peut rien du tout?
Alors on termine avec les annonces. On commence avec un rassemblement contre le fascisme et pour organiser une résistance populaire. Donc c'est tous les jours, hein, à 20h à Jean Jaurès, donc ce soir y compris. Donc on vous invite à y aller. Et aussi le samedi 6 juillet à 15h à la CAF Poésie, qui travaille avec la Ligue de l'enseignement. Ils se sont associés donc pour proposer. Ils se sont associés à plusieurs structures toulousaines qui travaillent avec des migrantes et des migrants pour mettre en valeur et faire découvrir la variété des cultures accueillies dans la Ville Rouge. Donc ce sera un après-midi et une soirée de rencontres avec notamment à 15h le groupe Hazard qui fait des chants folkloriques de femmes kabyles. Et l'association Azamoul. À 16h, la découverte de la culture du Kerala, donc danse et musique indienne, l'association Sama Occitanie. À 17h, Ellie Pineda, qui est une chanteuse chilienne. À 18h, Somatic Patience, ce sera une performance dansée par Natalia Bearzotti, qui vient d'Argentine, avec l'association Aki y Aura. À 19h30, il y aura une jam session du monde, donc tout le monde pourra venir jouer des instruments pendant cette jam session. Et à 21h, il y aura le trio Shafak, musique chilienne, syrienne et palestinienne. Et toute la journée, il y aura une fresque participative avec Ignacio González, des ateliers avec des apprenants français langue étrangère, de la Ligue de l'enseignement et des jeunes de la mission locale, des gens en bois, des quiz, et il y aura buvette et restauration avec de la cuisine indienne pour l'occasion.
Tu nous redis où c'est la date?
Alors ça se passe le samedi 6 juillet à 15h à la CAF Poésie, 71 rue du Thor.
Voilà, et là pour le jeudi 11 juillet, c'est à la chapelle, rue Casanova. C'est une rencontre organisée par le kiosque et ici-bas, dans le jardin. Alors, c'est une rencontre avec le journaliste John Gilbert, qui parle des luttes mexicaines d'hier et d'aujourd'hui et de la résistance à la violence d'État. Puisqu'il a fait un livre, L'évasion d'un guérillero, et aussi Écrire la violence ici-bas. Ce jeudi 11, il sera à la chapelle, et à noter que le vendredi 12 juillet, de 14h à 16h, il se trouvera au festival Résistance à Foix, sur le parvis extérieur, à l'appel du collectif Chiapas Ariège.
Alors, on continue avec
Moi encore dans les dates, c'est encore moi, parce que c'est du 6 au 13 juillet. Donc c'est moi. 6 au 13 juillet, ben justement, le festival de cinéma Résistance à Foix. L'ouverture, c'est vendredi 5, en fait, avec un film palestinien. Ça se passe à l'Estive à Foix. Et pour tout renseignement, vous allez sur le site du festival Résistance, à savoir qu'il y a 4 thèmes qui seront traités. L'addiction, l'injustice, les oubliés de l'histoire et les lieux de résistance et d'utopie. Donc du 6 au 13 juillet.
Et alors, un peu plus tard, donc du 16 au 21 juillet, il y a une mobilisation internationale Stop Méga Bassine qui aura lieu dans les Deux-Sèvres, à Mel. Donc il y aura des manifestations et notamment 2 grandes journées de manifestations Fleuve et Action Massive les 19 et 20 juillet. Et du 16 au 21, il y aura un village pour la défense de l'eau et des terres. Donc ce sera à Mel, qui est la municipalité qui avait déjà accueilli la manif de Sainte-Soline en mars 2023, le camp de la manif. Donc là, qui a accepté de recevoir à nouveau cette mobilisation internationale. Et cette fois-ci, ce ne sera pas en pleine ville, mais dans un écrin de verdure et de biodiversité dans la vallée de l'Argentière, avec la ferme communale de la Génellerie et ses complexes municipaux. Et donc voilà, ça se passe à Mel, dans les Deux-Sèvres, du 16 au 21 juillet.
Après, c'est les rencontres libertaires du Quercy organisées par l'OCL qui édite le mensuel Courant Alternatif. Ça se passe près de La Française au nord de Montauban du mardi 23 au dimanche 28. Pour toute information, allez sur OCL Libertaire, OC Libertaire ou Courant Alternatif. Alors donc c'est des rencontres libertaires avec des débats sur tout ce qui nous interroge aujourd'hui politiquement.
Et du coup, en août, nous aurons les rencontres du Maquis pour l'émancipation du 10 au 15 août 2024, donc dans la commune du Maquis à Boisbas à Minerve. Et donc, a priori, je vois que le thème est « Maudit soient toutes les guerres ». Donc, il y aura le relais de l'Observatoire des armements, il y aura des films. Il y aura des intervenantes, notamment Corinne Morel-Darleux, essayiste et romancière, engagée dans de nombreux réseaux écologistes, libertaires et paysans. Il y aura Fabien Lebrun, qui est l'auteur d'un ouvrage très critique sur l'usage du numérique. Il y aura Le Remplaçant, journal d'un prof précaire de banlieue, de Najib Sidi Moussa. Donc ça a l'air quand même plus large que la guerre. Donc il y aura plein de choses. Donc du 10 au 15 août, ça se passe aux rencontres du Maquis pour l'émancipation. Ça se passe au Maquis à Minerve.
Et bien voilà, je crois que Bruit de tôle se termine. On se retrouve le premier jeudi du mois d'août avec peut-être des invités pour parler de Radio Parloir, une émission qui a lieu à Grenoble. Et pour parler en général de la tôle aussi, on espère que vous tenez le coup et vous pouvez nous écrire. Alors, on a un mail, c'est bruit au pluriel, bruitdetôle@nos-log.org. Et puis aussi, tout simplement, à Canal Sud, émission Bruit de tôle, 40 rue Alfred Duméril, 31400 Toulouse. Et bon courage.
La liberté, c'est toute l'existence, mais les humains ont créé les prisons, les règlements, les lois, les convenances, les ateliers, les bureaux, les maisons, et les raisons. Alors disons, mon vieux copain, la vie est belle, quand on connaît la liberté. N'attendons plus, partons vers elle. L'air pur est bon pour la santé partout, si l'on en croit l'histoire partout. On peut rire et chanter partout, on peut aimer et boire. À nous la liberté, à nous la liberté. Pourquoi faut-il se compliquer la vie pour de l'argent se faire des cheveux, alors qu'on peut vivre à sa fantaisie. Quand on est libre, on fait tout ce qu'on veut, on est heureux selon ses voeux. Mon copain, la vie est douce. Vivons ce que vivent les fleurs. Ne pas en foutre une secousse. C'est là le secret du bonheur partout. Si l'on en croit l'histoire partout, on peut rire et chanter partout. On peut aimer et boire. À nous la liberté. À nous la liberté. Il ne faut pas songer au mariage quand on est fait pour courir les chemins en attendant d'être assagi par l'âge. Contentons-nous d'amour sans lendemain. C'est le destin, mon vieux copain. Mon vieux copain, la terre est ronde. Les femmes vont de tous côtés. Quand on sera au bout du monde, il sera temps de s'arrêter partout. Si l'on en croit l'histoire partout, on peut rire et chanter partout. On peut aimer et boire. À nous la liberté. À nous la liberté.